Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Nous recevons tout d'abord Jonathan Sixou, journaliste et écrivain, auteur de Triompher en festin, très beau titre, Une histoire de France en 20 repas, chez Perrin, un passionnant récit historique qui explore la France à travers ses repas officiels. Jonathan Sixou, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Arthur, merci de m'avoir invité.
Vous êtes donc journaliste, rédacteur en chef des pages culture de Causeur, c'est ça?
Exactement.
Causeur, excellent magazine, notre consoeur et amie Elisabeth Lévy. Et vous êtes écrivain aussi, puisque vous êtes déjà dans votre besace trois livres, et je compte pas les ouvrages collectifs. Rayer de la carte sur les traces du Louvre oublié, édition du Cerf en 2017. Capital Paris au Cerf toujours en 2021, prix transfuge du meilleur essai 2021. Vivre en ville, édition du Cerf toujours 2023, Grand Prix de l'Académie française en 2024. Et donc là, vous sortez de la ville, puisqu'en ce début d'année, vous revenez avec Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas chez Perrin. Une histoire de France donc racontée par le menu de Saint-Louis à Emmanuel Macron, en passant par Napoléon III ou le paquebot Normandie. Vous écrivez dans votre introduction que nos habitudes alimentaires ont davantage changé ces 100 dernières années qu'en deux millénaires. Alors là, j'avoue, j'étais surpris. Comment l'expliquez-vous ?
Par un fait assez simple en soi, c'est que le temps de la gastronomie est un temps long, voire un temps très long. Nous avons connu une accélération, pour ne pas dire une précipitation, ces 150 dernières années, mais on a mangé la même chose ou quasiment la même chose de l'Antiquité au Moyen-Âge et la même chose ou quasiment la même chose de l'Antiquité au XVIIe voire XVIIIe siècle. Il y a une très très lente évolution de la gastronomie. Les grands moments qui ont vraiment bouleversé notre histoire culinaire avant cette accélération phénoménale de ces 100-120 dernières années, ce sont les croisades et la découverte de l'Amérique. Mais les grandes guerres napoléoniennes, les grandes conquêtes de Louis XIV n'ont pas modifié vraiment la table française, si on peut à ces époques-là l'appeler ainsi.
Et ça s'est encore accéléré au XXe siècle ?
Considérablement accéléré à la faveur d'une globalisation totale et qui a profité également qui a aussi profité évidemment à la cuisine française, mais qui a permis à la cuisine française aussi et surtout de rayonner dans le monde comme elle l'avait jamais fait auparavant.
Alors qu'on rayonne dans le monde, je comprends, mais qu'on prenne exemple sur de la bouffe dégoûtante qui est une lettre en lait, ça me dépasse encore. Mais alors c'est vrai, vous l'avez dit, ça nous permet de rayonner. Alors il semblerait quand même qu'on commence à viser beaucoup sur nos reliques en France et que nous sommes plutôt réduits à un rôle de commentateur et qui n'inspire plus grand monde et pire encore qui attire beaucoup et qui attise beaucoup de moqueries. Mais en revanche, il semblerait quand même en effet que notre gastronomie, c'est peut-être l'un des rares domaines où nous régnons encore.
Parfaitement. Pour une raison ancienne, profonde, je cite à un moment dans le livre une très jolie formule de feu Michel Guérard, qui était un grand chef, qui, pour parler de la cuisine française, parlait d'une cuisine de civilisation. Et il y a, dans l'histoire de l'humanité, que deux cuisines de civilisation. Il y a la cuisine chinoise et la cuisine française. Quand nous étions encore des chasseurs-cueilleurs, les Chinois, eux, rédigeaient déjà des traités de philosophie et philosophaient la politique et la gastronomie dans la plus haute antiquité. Nous, c'est arrivé plus tard, mais avec un brio inégalé. Bien plus tard, je pense notamment à la façon dont a conceptualisé le repas et la force de la table, aussi bien un carême qui était au service d'un Talleyrand, mais quelques années plus tard, Brillat Savarin, qui n'était pas un critique gastronomique, mais qui était un théorisateur, si je puis dire, de la gastronomie.
Rémi, Carlo.
Et à partir de quand la cuisine française est reconnue à l'international, un petit peu comme aujourd'hui, mais de quand on peut dater ça? Et dans quelle mesure on le doit précisément à ces banquets politiques, royaux, que vous expliquez, que vous racontez dans ce livre?
Alors, le raffinement de la table française est réputé dès la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est une évidence absolue pour toute l'Europe. Ensuite, on doit son importance, l'importance de cette image, au rayonnement de la France déjà, mettons à travers le règne de Louis XIV, qui est un règne qui est connu jusqu'en Chine, encore une fois. mais ceux qui vont vraiment démocratiser, si je puis dire, l'idée qu'on se fait du repas français, c'est un chef génial qui s'appelle Auguste Escoffier, qui va comprendre, qui va s'appuyer, indépendamment de son savoir culinaire, sur les nouveaux médias, dirions-nous aujourd'hui, à savoir les transmissions radio et tout ce qui était les premières, effectivement, comme ça, transmissions intercontinentales. Et il va avoir l'idée de lancer une idée folle qu'il a appelée les dîners d'Épicure. C'est servir le même repas à plusieurs centaines, voire milliers de personnes sur Terre en même temps. Et les convives sont invités à s'envoyer des télégrammes, à s'envoyer des messages radio. Le premier a lieu en 1912 et ça va s'arrêter avec la Première Guerre mondiale et ça reprendra après la Seconde Guerre mondiale.
Exceptionnel, ça. Ouais. Romaric, sans garce.
Ça, c'est sur la question du fond, la substance, en tout cas, la qualité de la cuisine française, mais il y a aussi la question de la forme. Le service à la française est imposé d'ailleurs un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de ces services? Parce qu'il me semble qu'au Moyen-Âge, d'ailleurs, comme dans l'Antiquité, tout le monde se servait un peu à main nue sur un grand banquet avec des plats très mélangés. Mmh. Donc, comment tout cela a évolué et comment ça se répartit aussi aujourd'hui dans le monde où il y a différentes pratiques qui coexistent?
Ça, là aussi, l'évolution est assez lente dans le temps. Elle est progressive, mais elle est lente. On sert la table, effectivement, médiévale comme on pouvait servir la table antique, c'est-à-dire des grands plats dans lesquels chacun se sert, voire mange même à la main dans le même plat, ou sinon on se sert avec un ustensile, une cuillère généralement, ou avec la pointe de son couteau pour se mettre sur ce qu'on appelle un tranchoir, c'est-à-dire une épaisse tranche de pain qui sert d'assiette en fait, et qui absorbe la sauce, la viande. C'est surtout des menus très carnés. Et les plats qui sont cuisinés, pour vous donner une idée, ressembleraient aujourd'hui à la cuisine indienne, c'est-à-dire une cuisine qui est saturée par les saveurs, par les épices. Là, on parle évidemment de la grande table. Pourquoi il y a plein d'épices? Parce que les épices, ça coûte extrêmement cher. Et donc, plus vous mettez d'épices sur votre table, dans vos plats, plus vous montrez à vos invités la richesse que vous possédez. Il y a une constance aussi qui est assez longue dans les siècles. C'est que même si c'est bon à la table française, on ne s'y tient pas très bien. Et il faut attendre les premiers écrits d'Erasme qui va commencer à théoriser pour un jeune prince français le maintien à table, l'hygiène de table, dire comment on doit s'asseoir, comment on doit se tenir à table, etc., ce qu'on doit faire et surtout on ne doit pas faire. Ce sont des règles que nous pratiquons encore aujourd'hui. Là, le vrai bouleversement, il va arriver quand les Italiens vont commencer à arriver en France, avec les Italiennes. Je pense à la première d'entre elles, qui est Catherine de Médicis. Et avec elle, ça ne va pas être la révolution gastronomique comme certains veulent le faire croire. Elle arrive avec des choses, effectivement, que les Français ne connaissent pas, les friandises, les confitures, ce genre de choses, le masse-pain.
Merci les bonnes
exactement. Mais elle arrive surtout avec les manières de table italiennes. Et ça, c'est une découverte pour les Français qui vont s'en emparer, mais qui vont les perfectionner d'une façon incroyable. C'est-à-dire que les Italiens ont quelque chose que les Français n'avaient pas. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un maître d'hôtel. C'est quelqu'un qui va créer et faire respecter la progression d'un repas, établir un ordre de service, faire en sorte que tout soit prêt quand les gens se mettent à table, etc.
Ça vient d'Italie, ça.
Ça vient d'Italie.
Ah, c'est fascinant, je pensais que c'était un truc d'anglais.
Et avec un certain mépris, Montaigne raconte sa rencontre avec, je le cite aussi, sa rencontre avec un maître d'hôtel, et Montaigne est effaré de voir qu'on peut parler, comme si on parlait d'un empire qui se fait et qui se défait par les armes, d'un dîner qui se sert et qui se dessert à des invités. Il le prend avec une pointe de mépris, mais ça montre quand même que quelque chose est en train de se passer. La chose que l'on doit également aux Italiens, mais alors là, ça va prendre encore plus de temps à s'imposer, c'est la fourchette. Alors qu'on commence à manger à la fourchette dès le XIe siècle à Venise, c'est à la Renaissance finissante que la fourchette arrive. Mais même Louis XIV refusera de manger avec une fourchette toute sa vie. Et quand ses petits-enfants, qui ont évidemment reçu de bonnes manières, devaient manger à sa table, Louis XIV interdisait qu'ils mangent avec la fourchette. Donc les grands soupers de Versailles dont vous parliez tout à l'heure ont mangé avec une main et un couteau et une cuillère.
Fascinant tout ça. Alors, on parle beaucoup de fourchettes, là, de nappes, des Italiennes qui arrivent avec leur sucre et beaucoup de plats, mais le vin. Est-ce que le vin a toujours été lié au banquet, au festin? Est-ce qu'on prenait aussi soin du vin au Moyen-Âge, à la Renaissance, qu'aujourd'hui, où limite l'étiquette de vin qu'on sert est plus importante que le poularde à la truffe?
C'est très important dès le départ. C'est très important parce que c'est vraiment un héritage de l'Antiquité où le vin était aussi très important au cours du repas et puis même dans la vie en général, même dans les libations religieuses, etc. Le vin dans l'Antiquité a une part considérable. Mais on ne le consomme pas de la même façon. Et là aussi, c'est un héritage de l'Antiquité pendant quelques siècles. On coupe le vin. On peut le couper avec de l'eau, on peut le couper avec de l'orge, une sorte de bière, si vous voulez. On y adjoint énormément d'épices, là aussi, de la cannelle, différentes herbes.
Les épices, ce n'est pas pour cacher le goût d'une matière première médiocre, non. C'est vraiment pour dire ça coûte cher, donc regardons, on voit ce qu'il
y a
bien.
Il y a ça, évidemment. Mmh. Il y a, comme aujourd'hui, de la piquette et du grand vin. Très tôt, les vins de Bourgogne sont reconnus comme les meilleurs de France. Pardon pour les Bordelais
ils sont trompés dès le début.
Écoutent. Et le vin fait partie intégrante de la table française depuis toujours. Il n'y a pas eu une période, je ne pourrais pas vous donner une date, par exemple, parce que c'est une évidence. Et on boit également du vin et en quantité bien souvent, pour une raison aussi sanitaire, c'est qu'il se trouve que l'eau naturelle est souvent, durant des siècles, très polluée et que si on ne la coupe pas avec de l'alcool, à savoir du vin, c'est très embêtant pour l'estomac que de boire un verre d'eau comme ça.
Rémi Carlu.
Oui, on a parlé beaucoup de gastronomie, parlons de politique un petit peu. Ce qui est fascinant avec votre ouvrage, c'est de montrer que tout grand accord ou de grandes décisions politiques sont conclues, doivent se conclure en France par un banquet. Voilà, la table dépasse la fonction purement alimentaire, disons, pour se joindre aux puissants. Voilà, donc moi je voulais demander dans quelle mesure c'est une spécificité française. Avez-vous rencontré chez tous les monarques, présidents, etc., que vous avez rencontrés en travaillant sur cet ouvrage, cette volonté, cette nécessité même de conclure un accord ou une grande rencontre par un repas?
Ça s'impose, là aussi, c'est une habitude immémoriale, dirais-je, parce que les hommes ont toujours aimé boire et manger, et donc l'idée du festin, qui est de boire et manger mieux qu'à l'accoutumée, marque un événement important, que ce soit une victoire diplomatique, une victoire militaire, un mariage, tout simplement, ou des grandes fêtes religieuses. Et c'est ainsi qu'il y a toujours eu la volonté de marquer, quelle que soit la nature de cet événement, c'est un grand événement, on doit marquer les mémoires par un bon repas. Il y a plusieurs monarques qui ont pensé. Celui qui le théorise, si je puis dire, d'une certaine façon, c'est Louis XIV, qui fait rentrer vraiment dans le protocole du quotidien le repas en tant que tel, puisqu'avant lui, le repas est le moment surtout d'un joyeux désordre, notamment à la cour des Valois. Henri III se plaint d'être bousculé pendant qu'il mange à table ou ce genre de choses. Et celui, là, c'est peut-être, alors c'est beaucoup plus récent dans notre histoire, c'est un monarque républicain, celui-là, c'est le général de Gaulle, qui était attentif aux dépenses de l'État, mais quand il recevait avec son épouse à l'Élysée, il estimait que c'était la France qui recevait, c'était la France qui se montrait. Et dans ces cas-là, tout en étant raisonnable en proportion de dépenses, il fallait tout de même exposer le faste français, qui dans la tête du général est un faste d'ancien régime, tout simplement accolé à un régime républicain en la matière. Mais donc là, on ne compte plus. Là, on ne compte plus, c'est-à-dire qu'il faut que les plus belles tables soient dressées avec des surtouts de table qui remontent généralement au début de la République et non pas à l'Ancien Régime, mais il y a des services de Sèvres qui, eux, remontent à la Restauration notamment, qui sont toujours à l'Élysée aujourd'hui. Et il y a les vins qui sont importants et plusieurs et un vrai travail d'élaboration du menu pour représenter les meilleurs produits français, que ce soit les poissons, les viandes et les légumes. Et il y a une anecdote amusante quand ils arrivent à l'Élysée, Yvonne de Gaulle donne comme instruction aux cuisines, quand c'est un repas entre Français, de ne servir que deux services, mais quand il y a des étrangers à table, d'en servir trois, pour montrer que la France est généreuse et la France, encore une fois, sait recevoir ses convives étrangers.
Évidemment, dans votre livre, on croise des illustres personnages de la gastronomie, Escoffier, Carême, Vatel, Brillat-Savarin. Arrêtons-nous un peu sur Brillat-Savarin, qui est quand même plus connu aujourd'hui dans les fromageries qu'à l'école. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était Brillat-Savarin?
Brillat-Savarin est un fonctionnaire qui naît à la toute fin du XVIIIe siècle et qui vit dans le Paris de l'Empire et puis de la Restauration, qui connaît une éclosion extraordinaire de la Restauration telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire les restaurants. Le restaurant naît à Paris au moment de la Révolution. De la révolution de 89. Il y a une effervescence incroyable. Ce sont tous les chefs de cuisiniers de la noblesse qui est en émigration ou qui s'est fait tuer. Tous les chefs, pour continuer de vivre, on décide d'ouvrir leur propre restaurant pour faire bénéficier de leur savoir ceux qui peuvent payer. Et ça se passe à Paris, dans le quartier du Palais Royal. C'est historiquement dans ce périmètre que les premiers restaurants voient le jour. C'est d'ailleurs pour ça qu'un chef s'appelle, quand il est bon, un cordon bleu. Ça rappelle le cordon de Saint-Louis qu'avait porté leur précédent maître. Brillat Savarin évolue dans cet univers-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il ne va pas lui être critique gastronomique. Comme a commencé à l'être, bien avant lui, Grimaud de la Reynière, par exemple, qui, lui, est un peu à l'origine de la critique gastronomique. Ce qui intéresse Brillat Savarin, c'est le rapport que nous entretenons au repas. Il a écrit, évidemment, son livre qui est « La physiologie du goût », et de voir comment un repas, un festin, peut influer sur les humeurs, sur les décisions à prendre. Et il théorise justement, en se plongeant dans l'histoire, tous ces repas qui ont précisément changé le cours de l'histoire. Et il en fait des généralités au sens propre du terme, en se basant sur la répétition de tel ou tel événement, pour montrer que sa théorie tient la route en effet. Donc Brillat Savarin est un gastronome, mais ce n'est pas un critique gastronomique, de même que vous citez Vatel. Vatel n'a jamais été cuisinier de sa vie. Vatel est un officier de bouche, comme on dit. C'est une sorte de super-intendant qui porte l'épée aux côtés et le chapeau à plumes. Et il est, lui, chargé de faire en sorte que tout soit bien en place lorsque son maître, le Grand Condé, reçoit à la maison, à savoir au château de Chantilly, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des réserves pour de vin, des réserves de nourriture, il faut que les chambres soient propres et rangées, etc. Donc Vatel, lui, n'est pas du tout cantonné aux cuisines. On connaît sa mort tragique, qui est liée au retard de la fameuse marée.
Rappelez-nous justement qu'est-ce qui a raté et qui l'a poussé donc au suicide.
Le Grand Condé reçoit son cousin Louis XIV à dîner sur plusieurs jours là aussi au château de Chantilly. Toute la cour est là. C'est des milliers de personnes qui sont là et qui ne mangent pas la même chose et à la même table selon leur rang. Et Vatel est chargé, il en a vu d'autres, hein. il organise ça, on s'arrache les services de Vatel dans la haute noblesse depuis des décennies déjà, mais c'est le Grand Condé qui est le plus offrant, et Vatel ne dort pas depuis des semaines pour organiser cet événement hors du commun, même pour le Grand Condé. Et on dirait aujourd'hui qu'il fait un burn-out en français, parce qu'il est vraiment au bout du rouleau. Et quand l'avant-dernier jour, la marée, c'est-à-dire le poisson et les coquillages, tardent à arriver, c'est-à-dire qu'il avait commandé, je ne sais plus exactement, mais mettons 4 ou 5 chariots de marée, et il apprend qu'il n'y en a qu'un seul qui va arriver. Et là, il se dit, mais je suis fini. Et il décide de mettre fin à ses jours. Il monte dans sa chambre et il se transperce le corps avec son épée. La marée arrive, 40 minutes plus tard. Les aides, les cuisiniers, etc., les seconds de Vatel continuent de tout organiser. La fête est une somptuosité réussie, mais la mort de Vatel circule quand même. Et Madame de Sévigné, qui est présente à la fête, dira dans une de ses lettres qu'on regrette quand même la disparition de ce cher Vatel, qui avait quand même beaucoup de talent.
Chers amis, il me reste une minute, donc j'ai une dernière question quand même. Parmi les 20 festins, auxquels auriez-vous aimé vivre ou participer, alors pour des raisons politiques ou gustatives, ou parce que les compagnons de table avaient l'air sympathiques, s'il fallait en choisir qu'un seul?
S'il fallait en choisir qu'un seul, et si en plus je pouvais choisir qui était à table, je choisirais un repas de carême élaboré pour Talleyrand. Parce qu'on atteint là un niveau de perfection de la gastronomie française inouïe. Et Dieu sait que j'aurais aimé échanger quelques mots avec Talleyrand, qui est un personnage que j'admire incroyablement.
Merci beaucoup.
Merci
Jonathan. Je rappelle votre livre « Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas » chez Perrin. Et vous l'aurez compris, chers auditeurs, nous vous le conseillons vivement. C'est un récit passionnant, on apprend plein de choses, c'est très bien écrit, très vivant. Et honnêtement, on découvre pas mal de choses. Et en plus, vous avez les menus avec, et puis sur certains aussi, et la facture. Et vous dites même du bien d'Emmanuel Macron une fois.
On ne divulgage pas
et vous découvrirez pourquoi.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Bonjour à tous, bienvenue dans Restons courtois, l'émission vespérale de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, je remplace Arthur de Vatrigan, parti à la chasse aux truffes dans le Périgord. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Patrice Jean, bonjour.
Bonjour Romaric. Bonjour messieurs.
Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Ce soir, on peut déjà dire ce soir, vous avez publié, je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtriez pas encore, vous avez publié 10 romans, un essai, une correspondance, votre écriture est élégante et incisive, vous donnez une vision de l'époque assez noire, c'est-à-dire fidèle, et savez, au sein de romans réalistes plutôt provinciaux que parisiens, plutôt classe moyenne qu'élite mondialisée, mettre en scène les enjeux fondamentaux et éternels d'une manière inédite, tout en éreintant avec génie les travers du temps. Que demander de plus ? Patrice Jean est un merveilleux écrivain dont la renommée a commencé de rayonner en 2017 avec le succès mérité de son quatrième roman « L'homme surnuméraire » qui enthousiasma Saint-Germain-des-Prés. Une voie des honneurs qui se poursuivit avec le prix de l'incorrect qu'il reçut en 2019 pour son roman « Tour d'ivoire » avant d'être encore célébré en 2022 par le prix des Hussards qui vint récompenser son parti d'Edgar Finger. Son dernier roman, La vie des spectres, a illuminé la rentrée littéraire de 2024, mais nous le recevons aujourd'hui à l'occasion de la parution au Cherche-Midi d'une véritable somme qui comprend ses trois premiers romans, des aphorismes et de nombreux inédits au titre délicieux « La fin du monde avait pourtant bien commencé ». Le grand romancier que les hommes et femmes de goût reconnaissent aujourd'hui chez Patrice Jean est déjà là dans La France de Bernard, dans Les structures du mal, dans Revenir à Lisbonne, roman qui à la fois diagnostique l'époque et actualise les questions éternelles. Une satire irrésistible, un grand roman mélancolique et métaphysique, un roman en trompe-l'œil parfaitement corrosif. Voici ce qui constitue la triade initiale du romancier Patrice Jean, où sont déjà exposés ses thèmes principaux, la bêtise contemporaine et ses chapelets de nouveaux clichés, la précarisation des poètes, le mépris pour la vie de l'esprit, les ravages de l'idéologie et bien sûr surtout le désir, la passion et leurs ambiguïtés. C'est votre statut de professeur de français que vous êtes, parce que c'est dans vos livres, il y a souvent des professeurs, et certains qui abandonnent, certains qui n'abandonnent pas, dont notamment ce professeur dans Les structures du mal qui s'est reconverti dans la vente de vêtements féminins. Et donc c'est un le professeur chez Patrice Jean, il y aura sans doute des thèses un jour que d'autres professeurs dirigeront sur la place du professeur dans l'œuvre de Patrice Jean. Et est-ce que vous êtes un professeur heureux? Est-ce que vous avez parfois envie de tout abandonner comme certains de vos personnages, ou est-ce que finalement c'est un exorcisme qui vous permet ensuite de reprendre votre poste avec la plus grande confiance qui soit?
Je dirais que c'est les deux premiers. Là, j'en ai fait un peu le tour de cette question de l'enseignement. Je ne suis pas un professeur malheureux. Je sais comment faire des cours, avoir des élèves, etc. Maintenant, bon, je pourrais arrêter sans être désespéré. Notamment, j'aimerais bien arrêter pour une raison simple, c'est de pouvoir écrire davantage.
Bien sûr, alors c'est vrai que c'est assez amusant, on s'en était rendu compte quand on avait fait en septembre dernier, nous avions fait avec l'incorrect un numéro sur la fin du monde du livre, où vous nous aviez fait l'honneur auquel vous aviez fait l'honneur de participer avec Alain Finkielkraut et Éric Nolot, et curieusement, pas forcément curieusement, mais votre discours était peut-être un des plus plus optimistes ou du moins les plus positifs. Tout ça étant très relatif, hein,
si,
évidemment.
Si, on peut le dire. Ouais. Ouais.
Et on se disait, sans doute, parce que justement vous êtes professeur, et donc vous n'avez pas uniquement, quelque part, un constat assez sinistre si on le voit de loin et de manière abstraite, mais vous avez sans arrêt, quelque part, en face de vous, malgré tout, vous assistez au miracle de jeunes gens qui s'émerveillent de la littérature et ça sauve un peu du constat brut.
Je trouve que parfois on est trop sévère aussi avec l'éducation nationale, parce que on lui impute tous les problèmes de la Terre, et notamment du fait que les jeunes gens ne lisent pas beaucoup, mais je rappelais dans cet entretien que la plupart des jeunes gens d'entre 15 et 18 ans vont entendre parler de Baudelaire, de Nerval ou de Chateaubriand uniquement à l'école. Et uniquement dans les classes de lycée. Une fois qu'on sort du lycée, c'est fini. On n'entend plus parler de Chateaubriand, de Flaubert, de Proust, ou très peu. Donc, alors accuser l'éducation nationale de tout casser, d'être la responsable de la décivilisation, comme dirait l'autre, je trouve que c'est un peu injuste. C'est quand même injuste. Et en ce qui me concerne, je fais mon possible pour que les classes qu'on me donne s'intéressent à la littérature. Alors je sais très bien que je ne réussis pas pour beaucoup d'élèves, mais au moins reconnaissons ça. Que, voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que on peut pas, quand on a des élèves, être dans l'attitude des bras baissés, l'attitude de celui qui démissionne. Autrement, on arrête, hein. on fait plus, quoi.
Bien sûr, Rémi Carlu.
Alors, juste pour revenir sur cette publication récente, j'imagine que la republication de vos premiers romans est pour vous l'occasion peut-être de jeter un regard rétrospectif sur votre œuvre. Lequel de vos livres est votre préféré? Lequel est le plus abouti? Et si un de nos rares auditeurs qui n'aurait pas encore lu vos livres, par lequel le conseillerez-vous de commencer?
De tout ce que j'ai écrit ou
de tout ce que vous avez écrit?
Oh. Moi, quand on me demande quel livre lire, si je veux que la personne lise un livre qui vraiment me satisfait dans ce que j'écris, je dirais L'homme sur le miroir et La poursuite de l'idéal. Voilà, c'est les deux romans, dont, peut-être Tour d'Ivoire aussi, qui sont peut-être les trois romans que... Alors après, ça dépend de la personne. Si c'est quelqu'un qui lit peu, qui a du mal à lire, je conseillerais par exemple Revenir à Lisbonne, qui se trouve dans ce... qui est un petit roman assez bref, enfin qui est bref, et donc qui sera plus facile pour un lecteur... non aguerri.
Alors il y a un autre sujet parmi les nombreux thèmes qui sont les vôtres, il y a plusieurs satires de l'art contemporain qui est un milieu, alors là sur la question de la vanité culturelle qui est une espèce de climax, enfin c'est même presque difficile à caricaturer tellement
ouais, ça fonctionne comme ça.
Ça va loin. Alors c'est l'occasion du coup pour nous de revenir un peu sur l'actualité culturelle. Le festival d'art contemporain Art Basel vient de fermer ses portes. On a pu assister à un nouveau squat grotesque de la place Vendôme, non pas par un plug anal géant comme celui qui avait été gonflé par Paul McCarthy en 2014, mais par une Kermit la grenouille géante à demi affaissée qui y a installé Alex da Corte. Celui-ci rendrait ainsi hommage à une scène pour lui traumatisante, le dégonflement de ce personnage du Muppet Show lors d'une parade à laquelle il assistait en 1991. On a les viols qu'on peut, on a envie de dire. Ce drame très autoréférencé le porte néanmoins à des réflexions plus générales à haute portée philosophique, comme en témoigne une réponse qu'il donne à l'entretien d'Art Basel au sujet de son installation. Alors attention, au niveau philosophie, on va aller très haut. Mon intérêt pour Kermit est né de cette réflexion. Ce n'est pas facile d'être vert. C'est pas facile d'être vert. D'un côté, vert signifie énergie verte, être conscient de l'environnement. De l'autre, cela renvoie également à un extraterrestre, à une marginalisation, à la difficulté que cela implique. Ici, nous voyons Kermit le porter clairement sur son visage. La façade tombe quand la caméra n'est pas braquée sur vous. Vous laissez tomber le masque et laissez vos sentiments transparaître. Cette évocation, alors voilà, c'est le problème, c'est qu'il n'y a plus besoin vraiment d'imaginer, c'est presque qu'on pourrait le couper et on le met ça dans un roman, c'est ça qui est un peu dérangeant. Donc cher Patrice Jean, qui avait consacré plusieurs scènes éloquentes et extrêmement drôles sur l'art contemporain, que vous inspire cette érection en format demi-molle de Kermit la grenouille à côté de la colonne Vendôme?
Mais non, mais c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que la réalité dépasse la fiction. C'est un lieu commun de dire ça, mais là, je ne connaissais pas l'interview de l'artiste. Ce n'est pas la peine que je retienne son nom, mais bon, oui, on pourrait mettre ça dans un roman pour faire rire. Ce qui est étrange, c'est la question, c'est que comment on en est arrivé là, quoi. C'est ça qui me... Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un artiste présente Kermit la grenouille en gonflable, Place Vendôme? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Comment les choses se sont peu à peu enchaînées pour que ça ne paraisse pas grotesque à tout le monde? Parce que j'imagine que certains n'ont pas notre réaction. Et quelle est leur réaction? Quel est leur discours? Là, il y a quelque chose qui m'échappe.
Et qu'on ne puisse pas en rire aussi.
Et qu'on puisse pas... On peut en rire quand même, heureusement.
On peut en rire un peu.
Bah nous, enfin moi,
en tout
cas,
rire,
oui,
c'est,
voilà.
C'est... Ouais.
Si on peut en rire, c'est... Vous voyez, c'est une époque formidable, merveilleuse.
Sur ce projet-là, oui. Marc Obregon.
Oui, alors vous savez, aujourd'hui, dès qu'on évoque la possibilité qu'il y ait dans le gant de velours du soft power la main de fer de la CIA sur traité de complotiste, c'est pourtant une réalité puisque leurs documents ont été déclassifiés et on sait dorénavant depuis au moins 10 ans que la CIA a financé à hauteur de 12 millions de dollars l'art contemporain, l'avant-garde américaine dans les années 50 pour évidemment contrer l'avant-garde russe, soviétique, mais également l'avant-garde européenne. Et donc tous les artistes qu'ils ont mis sur le devant, les Pollock, les Rothko, qui ont d'ailleurs envahi nos goodies, comme on dit maintenant, depuis très longtemps, en fait sont l'œuvre et le financement du mécène, des mécènes qui était la CIA. Et donc, je voulais faire ce petit rappel pour rappeler que donc, cette Kermit la grenouille n'est pas seulement une dégénérescence de l'art contemporain, mais c'est également du soft power américain, voire même du French bashing, c'est-à-dire vraiment une tentative d'humiliation quasiment non déguisée, en fait, de la France. Parce qu'il faudra quand même rappeler aux auditeurs qui ne l'ont pas vu, cette grenouille est dans une posture très subjective, qui est en gros une posture de sodomite. Donc, elle est complètement soumise dans une position réellement inquiétante et humiliante. Et par conséquent, il y a vraiment pour moi une volonté, en fait, parmi, alors Art Basel, ce sont avant tout des banquiers, hein, des hommes d'affaires, des financiers, qui blanchissent leur argent via l'art contemporain. Et donc on peut effectivement soupçonner, encore une fois, un coup du soft power américain, même si on sait que Trump a coupé les fonds du soft power depuis le mois de mars. Donc c'est peut-être, heureusement, imaginons que c'est peut-être une dernière régurgitation de ce soft power américain.
Bon, en même temps, ça pourrait être vu du coup comme un totem poussant au réveil les Français assimilés à une grosse grenouille dégonflée. On peut le voir de manière presque positive. Rémi Carlu.
Oui, trois éléments. D'abord, moi, c'est l'infantilisation esthétique de l'espace public que je trouve vraiment déprimante. On voit ça dans tous les panneaux, la signalétique, la publicité, le mobilier urbain. Et on voit maintenant que ça gagne les œuvres d'art publiques exposées en plein Paris, sur la place Vendôme, donc sur une place extrêmement prestigieuse. Alors vous me direz qu'il y a une forme de lucidité, puisque ça revient à considérer que le moderne, ou en tout cas l'adulte moderne, n'est finalement qu'un grand enfant. Ensuite, il y a une adéquation de la forme et du fond. Et la citation que vous avez citée, l'artiste qui essayait d'expliquer son œuvre d'art, et on se rend compte que la nullité formelle, l'absence de proposition formelle, va de pair avec un propos complètement vide et aucun... cet artiste n'a visiblement rien à dire sur le plan existentiel qui viendrait justifier son œuvre d'art. Et puis, la dernière chose, et vous parliez tout à l'heure des réactions, ce qui est assez drôle quand on regarde sur les réseaux sociaux, c'est de voir l'injonction, l'obligation morale qu'ont les progressistes à réagir de manière positive face à la moindre de ces bêtises. Du seul fait qu'elle va énerver les dits conservateurs ou ceux qui ont une conception ou certaines exigences artistiques, disons. Ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que ces progressistes qui doivent applaudir à la moindre de ces bêtises ont abdiqué toute forme de liberté. Et donc, ils sont obligés, effectivement, de suivre la bêtise contemporaine du seul fait qu'elle serait subversive, alors même qu'elle ne l'est finalement plus du tout.
Oui, ce n'est pas facile d'être vert, c'est quand même un constat original. C'est vrai. Enfin, moi, c'est vrai que ce qui me frappe le plus, c'est cette injonction de sérieux. C'est ce qu'on voit dans une magnifique scène de La France de Bernard, notamment de Patrice Jean, où il y a une exposition comme ça de sexe de l'artiste.
Bon, non, c'est dans Revenir à Lisbonne.
C'est dans Revenir à Lisbonne. Pardon, je confonds.
Mais
je
c'est normal. Mes romans voilà. se ressemblent tous.
Ah non, justement non, mais oui, c'est dans Revenir à Lisbonne. Pardon. Ouais. Et il y a cette exposition, bon, qu'on connaît tous. On sait, je sais plus quel est l'artiste qui faisait ça, mais en effet, qui affichait une collection de sexe, mais attention, du sien. Voilà. Et il y a ce côté où tout doit être très pris au sérieux lorsque un journal catholique, qui pourtant en fait l'éloge, censure pour son public les sexes masculins, les remplaçant par des fleurs, et c'est vu comme une atteinte à la liberté d'expression et à l'art. Et en fait, ce qui est très drôle quand même, c'est qu'il y a tout un art contemporain à partir du dadaïsme ou de Duchamp qui, justement, oppose un sérieux un peu pompeux de l'art bourgeois de la fin du XIXe siècle, un grand éclat de rire nihiliste et extravagant, et qui a d'ailleurs beaucoup de charme dans cette forme, en fait, d'humour, de désacralisation de l'art qui était devenu à nouveau sacré. Or, aujourd'hui, cet humour est devenu des totems qu'il faut prendre encore plus au sérieux que William Bouguereau ou les artistes officiels ou patriotards, par exemple, d'après la Commune. Donc, c'est ce renversement qui crée une situation tout à fait étrange et qui permet d'ailleurs des ressorts de comiques tout à fait inédits. Ça peut-être c'est encore une raison de dire qu'on est né dans une bonne époque, parce que sur ce point de vue-là, c'est un humour très particulier. Quoi.
On aurait pu mettre Kermit. Déjà, fallait l'inventer, Kermit, la grenouille de Mouppet Show, et puis la mettre Place Vendôme. Oui, non, c'est extraordinaire. Mais par rapport à l'art pompier, je pense que l'art pompier, c'était quand même assez difficile. Fallait quand même de la technique pour devenir un artiste pompier. Alors qu'aujourd'hui, depuis le Riz Noir de...
Duchamp,
j'ai toujours peur de dire Deschamps parce que je me suis trompé une fois et j'arrête pas de dire ça. Donc oui, c'est très facile. Donc on peut ce type d'art peut proliférer de manière constante, et c'est très drôle. Ouais.
Merci infiniment, cher Patrice Jean.
Reste en courtois. Arthur de Vatrigan.
Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Desciendorf, qui est venu avec Emma Becker. Donc, on va parler de littérature et de culture. Ça va donner un peu de baume au cœur à tout ce petit monde. Nicolas, bonjour. Emma, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Arthur.
Alors, on va faire le portrait de Nicolas. Vous êtes écrivain, gastronome, critique d'opéra. Vous écrivez des romans, des dictionnaires amoureux, des biographies. Vous avez même été le personnage principal d'un roman à succès. Vous êtes, votre œuvre est aussi éclectique que vos inspirations. Vous célébrez l'andouillette comme Arletty, vous plongez vos lecteurs dans la rédaction de Je suis partout, vous les immergez dans une île détenue par un écrivain tordu. Vous avez écrit un dictionnaire amoureux de Paris, mais aussi du mauvais goût, quoique depuis le Reine Hidalgo, peut-être que les deux se confondent un peu. Par le jeu des rencontres, vous êtes même devenu l'ayant droit de Rébatté, donc à coller le nom d'un des plus illustres résistants à celui du plus brillant des collabos, c'est quand même un coup d'éclat qui ouvre la revendication au titre convoité de prince de l'insolence. Bref, on peut le dire sans crainte, vous êtes un écrivain qui compte aujourd'hui en France, et j'ajoute un merveilleux compagnon de banquet. Parmi vos livres, citons donc Othon, le roi immobile, couronné par le prix Roger Nimi en 2002, l'immense succès Les Orphelins du Mal, Les Fidélités successives, à mon humble avis, Simply the Best, comme disait Tina Turner, Ce que l'on sait de Max Topart, sans oublier Le Dictionnaire amoureux du mauvais goût, ou L'île de l'orgueil, premier roman d'une série autour de sept péchés capitaux que vous allez lancer en août dernier, si je ne me trompe pas. Et donc, vous publiez ce mois-ci une biographie de Simone Signoret chez Albin Michel. Alors, pour connaître un peu
Calman
mieux...
Lévy.
Chez Calman Lévy. Simone Signoret, histoire d'un amour. Vous l'avez remarqué, on parle beaucoup de Simone Signoret, mais je vous le rappelle, n'allez pas voir la daube au cinéma, lisez ce livre. Alors, avant de revenir sur cet univers-là, on va aller sur des sujets importants. Marilyn. Parlons-en, Marilyn. Parce que je pense que tout le monde ne sait pas quoi... Quel bordel a foutu Marilyn là-dedans, dans ce magnifique couple de Montand et de Signoret? Racontez-nous un peu cette histoire.
Bah, c'est-à-dire, avant Marilyn, il y a Arthur Miller. C'est-à-dire Arthur Miller, le dramaturge. C'est les débuts du grand succès de Montand à Broadway. Et on lui propose de tourner avec Marilyn Monroe dans un film qui s'appelle Let's Make Love, Le Milliardaire, film de George Cukor. Film pas très bon, et c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, tous les grands acteurs hollywoodiens avaient refusé. Et Montand devient le French Lover qui apparaît qui apparaît aux États-Unis, on s'est dit, bah voilà, on va lui proposer. Miller retaille un peu le scénario pour lui, et c'est comme ça que ça se passe. Badaboum, du jour au lendemain, Simone Signoret devient la femme trompée la plus connue du monde, la cocu universelle.
Mais elle est restée.
Elle est restée. Pour plein de raisons. Je ne suis pas non plus dans sa psyché, mais elle avait l'habitude que mon temps gambade un petit peu dès le début. Il y a eu pas mal d'histoires, je le raconte avant. Il y a eu des enfants à droite et à gauche. Mais elle avait toujours dit à mon temps, il faut que ça reste dans la coulisse. Voilà, je faut pas que ça sache. À partir du moment où, ça se sait, c'est autre chose. Et ce qui s'est passé avec Marilyn Monroe, c'est que c'était pas une peine de cœur, mais une blessure d'orgueil terrible. Parce qu'elle est, au moment où cette chose arrive, la presse s'en donne à cœur joie, montrant des photos de Simone Signoret penchée en train de manger du jambon dans une trattoria italienne. Et à côté, une sublime photo de Marilyn. Et avec, globalement, en substance, comment mon temps a-t-il pu hésiter?
Comment elle a vécu, finalement, ce tournant de la stature féminine dans le cinéma français?
Effectivement, elle a fait partie de ces comédiennes qui ont éclos après la guerre, mais qui n'ont pas pris le virage de la nouvelle vague, aussi pour une question d'âge. Il y a eu juste après la guerre, il y a eu Martine Carole, qui était un peu celle du début des années 50, et Signoret a joué effectivement au début essentiellement des rôles de filles faciles, de catin, de pute, que ce soit Casque d'or, que ce soit dans Manège ou dans Dédé d'Anvers ou dans Macadam, tous ces rôles là. Et Mais elle a pas été contactée non plus par la Nouvelle Vague, parce que le moment où elle devient vraiment une grande vedette internationale, c'est en 59, donc l'année du début de la Nouvelle Vague, et c'est le moment. Et l'année suivante, elle a un Oscar à Hollywood pour un film américain, pour un film anglais qui était Les Chemins de la Haute Ville. Et en fait, toutes les années 60, Simone Signoret va tourner essentiellement aux États-Unis. En fait, donc elle a fait une grosse carrière américaine et elle revient en France véritablement à la fin des années 60 pour tourner dans l'Armée des Ombres et pour tourner dans les films de Granier de Fer, plutôt du cinéma à la papa. Mmh. Mais physiquement, elle était plus la même, et elle est devenue tout à coup, du jour au lendemain, elle a vieilli en assez peu de temps, elle est devenue un peu la mère nourricière d'un certain cinéma français, qualité France, mais des films qui ont très bien vieilli.
Mais d'ailleurs, dans Les Chemins de la Haute Ville, qui est quand même un film de Jacques Hélton, il faut le rappeler, elle a pris un risque qui était assez inédit pour l'époque, qui était d'incarner une femme ouvertement quadragénaire, qui était amoureuse d'un homme plus jeune. Et d'ailleurs, ce qui lui avait valu la Palme d'Or, me semble-t-il.
C'est ce qui lui avait valu le prix d'interprétation féminine à Cannes et l'Oscar à Hollywood. Mm.
Est-ce que ça, justement, ce n'est pas une façon aussi d'aller un peu contre, finalement, cette jeunification des starlettes qui apparaissaient?
Je ne sais même pas si elle pensait à ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle elle avait les rôles qu'on lui proposait, elle avait vieilli prématurément. Et aussi, il y a une chose, c'est qu'elle avait une assez mauvaise réputation sur les plateaux de cinéma, parce qu'elle était redoutable. Elle était connue pour être une pointe-bâche. Et en fait, les gens ne se la disputaient plus à la fin des années 50. Et après l'exil hollywoodien et le retour en France, je pense que les choses allaient mieux. Et en fait, elle a dû aussi son retour au cinéma en France à la carrière de son mari qui a démarré à peu près au moment où elle partait à Hollywood. C'est-à-dire que Montand, lui, estimait que ses vrais débuts au cinéma, c'était pas le Salaire de la Peur, c'était pas ces films-là, c'était Compartimenteur. C'est-à-dire, il disait toujours que c'est Gavras qui avait vraiment fait de lui un cinéaste, et un comédien, et ensuite sautait.
Alors, Signoret et Montand, on les a connus acteurs aussi, ils ont une vie publique par le couple, mais alors c'est peut-être le truc qui reste encore en France aujourd'hui, ce sont des acteurs qui s'engagent. Qu'on s'engage, c'est rarement à droite. Ouais. Mais ils s'engagent. Ouais. Ils s'engagent, même Montand va faire même une tournée à Moscou. Alors après,
les
il change
deux,
un
avec
peu.
Elle.
Avec elle, bien sûr. Lui, après, il revient, puis il change. Et elle, non. Est-ce que ça a joué dans leur couple? Et comment interpréter que l'un change et pas l'autre?
C'est-à-dire, en fait, les deux ont changé quand même. C'est-à-dire que ils étaient le couple iconique des années 50, dès leur rencontre. C'est-à-dire que leur notoriété est née avec l'essor de la télévision, avec l'essor de la radio, d'une presse dite people. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont nés sentimentalement et, disons, d'un point de vue public, sous l'œil des caméras dès le début. Donc, dès qu'il y avait un événement, qu'il se passait quelque chose, ils étaient toujours convoqués. Dès qu'il y avait un reportage à faire sur un couple, c'était eux. Et on est dans l'après-guerre. Lui vient d'un milieu populaire. Lui, c'est des immigrés italiens, communistes, CGTistes. Son frère est un des responsables de la CGT. Donc lui, naturellement, ils étaient naturellement communistes tous. Et elle, Simone Signoret, vient d'une famille grand bourgeois de Neuilly, mais sa mère avait une sensibilité de gauche, tout ensuite rentrant dans son grand appartement. Et donc ils sont connu là-dessus, et c'était même leur colonne vertébrale, cet engagement. Et lui, il était très engagé, il chantait des chansons de Francis Lemarque, il y avait régulièrement des paras qui venaient mettre des fumigènes pendant ses spectacles. Il y avait un vrai engagement sincère. Alors, il y a eu plusieurs coups de boutoir contre leur engagement assez violent, la mort de Staline et ce qu'on a découvert assez peu de temps après, et puis surtout, les événements de Budapest, en novembre 56, qui se passe quelques semaines avant leur départ pour une tournée en Union soviétique annoncée depuis des mois. Donc ça fait une immense polémique parce que les montants sont très très connus. Toute la France savait qu'ils allaient partir pendant 4 mois, Moscou, Leningrad et toutes les capitales de l'ex-URSS. Et alors, donc là, il y a des échanges de lettres ouvertes dans le Figaro, dans l'Humanité, dans la presse. Et finalement, ils partent. Et en fait, le voyage des montants dans les pays de l'Est, c'est vraiment teinté au pays des Soviets. Et Simone Tignon le raconte, et je le raconte aussi. Et en fait, ils voient vraiment, ils découvrent l'autre côté du miroir. Et c'est une désillusion complète, mais ils resteront quand même toujours globalement de gauche. Elle signera le manifeste des 121 au moment de la guerre d'Algérie, et dans les années 70, elle sera même constamment la mère courage d'une certaine gauche française, toujours là à taper du poing sur la table, voilà, suivant de près le procès Goldman, enfin toujours là, mais bon, de façon très sincère, mais d'ailleurs, au bout d'un moment, on sentait que les gens n'en pouvaient plus. Dès qu'il y avait un événement politique, il y avait toujours Signoret qui venait, c'était une pétitionnaire systématique, elle tapait du poing sur la table, elle déboulait dans les plateaux de télé lorsqu'elle était interviewée, elle disait les choses de façon très, très, très nette, mais elle avait toujours une pensée assez structurée. Et puis par rapport à leur engagement, Ils se sont mis à dos tous leurs anciens amis d'extrême gauche parce qu'ils ont eu au moins l'honnêteté de faire ce film-là.
Marc Aurélien.
Oui, on se souvient qu'une dernière apparition télévisée de Signoret, c'est Shane Sinclair quand elle la force quasiment à exhiber le logo de SOS Racisme. Oh. Est-ce que finalement Simone Signoret, c'est pas un peu le patient zéro de l'activisme gauchiste chez les actrices françaises?
Oui, en fait, elle est un peu la mère nourricière ou la mère fondatrice d'une certaine gauche caviar cinématographique française. Oui, le patient zéro, peut-être, mais il y a toujours eu des comédies engagées, mais c'est juste que elle est la première à vraiment peut-être s'affirmer, parce que souvent c'était généralement une génération où les comédiens ne disaient pas trop ce qu'ils pensaient d'un point de vue politique, et surtout les femmes. Elle est la première à vraiment, vraiment taper du poing sur la table, et donc elle occupe tout le temps le terrain, parce qu'il y avait moins de concurrence à cette époque-là. Mais, elle n'est morte qu'à 63 ou 64 ans. Donc on aurait pu l'avoir sur le dos dans beaucoup d'émissions de télé pendant 20 ou 25 ans de plus, oui.
Simone Signoret, sans sa vie publique, montant, sans ses engagements politiques, est-ce qu'elle aurait laissé la même trace au cinéma que la trace qu'on a aujourd'hui?
Signoret, oui. Oui, ça, absolument. Ça, je pense Signoret. De toute façon, la plupart de ses grands films, enfin, ça se tient dans des segments. Il y a toute une série de grands films entre 47 et 51, et ensuite plutôt à la fin de sa vie, entre les deux. Bon, il y a le film américain, mais je pense, oui, c'était une très très grande comédienne avec une palette extrêmement large, qui avait le talent et la qualité d'être bilingue, d'où cette carrière aux États-Unis. Elle a tourné avec Sidney Lumet, elle a tourné avec beaucoup de gens et beaucoup de grands comédiens, et elle a quand même fait une chose, ça c'est plus tard, qui est quand même, c'est extrêmement culotté, c'est qu'elle a joué Lady Macbeth en anglais à Londres avec Alec Guinness, et ce qui a été un désastre absolu, parce qu'en fait, on lui avait proposé ça, elle a dit je vais le faire, et en fait elle a pas préparé la pièce de Shakespeare comme on prépare une pièce, elle a préparé comme on prépare une thèse. Donc elle a lu toutes les versions, et en fait elle est arrivée comme une bonne élève, et ça a été un désastre. Le problème, c'est que c'est devenu le spectacle à voir à Londres pour rigoler. Donc c'est-à-dire ça, c'est-à-dire que c'était plein tous les soirs. Elle, son rêve, c'était que ça fasse un four, en fait. C'était un anti-four, c'est-à-dire que les gens venaient pour se moquer d'elle pendant un mois. Et un jour, Laurence Olivier, qu'elle connaissait bien, est venue la voir dans les coulisses en disant « Mais t'imagines si moi, je venais à la Comédie française jouer le Cid en français ? C'est pas possible. »
Ça marcherait pas, évidemment. Non. Alors, nous sommes que des hommes à parler de Simone Signoret. Je demandais à Emma Becker, qu'est-ce qu'incarne Simone Signoret pour vous ? Est-ce que vous avez redécouvert Simone Signoret ? Est-ce que vous aviez déjà une image d'elle ? Est-ce que vous l'appréciez en tant qu'actrice ? Est-ce que vous avez des films que vous appréciez d'elle ?
J'ai l'impression d'être sur un plateau de télé. On m'avait demandé quel était mon film préféré de Lelouch. J'avais même pas un film à citer. Non, je suis vraiment, moi, je suis nulle, désespérément nulle en cinéma. Moi, j'ai vu L'Armée des Ombres quand j'étais toute petite. C'est, Simone Signoret, pour moi, ça veut pas dire grand chose, quoi. C'est comme quand Nicolas a écrit Arletty. Pour moi, c'est pas des figures avec lesquelles j'ai grandi et qui m'évoquent beaucoup de choses. Mais là, on a beaucoup de différences. C'est plutôt cinéma, moi plutôt musique.
Et vous, Nicolas, quels sont les films à regarder de Simone Signoret? Si pour quelqu'un qui n'a vu aucun film de Simone Signoret, qui n'a jamais entendu parler de L'Armée des Ombres, et que je rappelle cette magnifique dernier plan sur le visage de Mathilde qu'incarne Simone Signoret, imaginons un inculte ne l'ait pas vu, qu'est-ce qu'il faudrait voir et commencer par quel film?
Pour le Signoret jeune, quand même, Casque d'or, qui est un des plus beaux films du cinéma français malgré tout, et Manège de d'Yves Allégret, qui est un film qu'elle a tourné juste avant de se séparer d'Allégret, qui est un des films d'une méchanceté. Les films de Clouseau à côté, c'est La Bibliothèque Rose. C'est un film presque haineux. Mais c'est même étonnant à quel point c'est monstrueux. Elle joue le rôle d'une femme manipulatrice. Et peu de temps après la sortie, quand elle se prenait dans la rue, les femmes l'approchaient, la traitaient de salope. Tellement ils avaient été marqués. Ensuite, Le Signoret de la fin, L'Armée des Ombres, qui est pas mon Melville préféré, mais qui est quand même un très beau film, et c'est pas son rôle le plus passionnant, même si elle est bien. Moi, j'aime beaucoup le diptyque Le Chat, la Veuve Coudert, les deux films Granier de Fer, Simenon. Le Chat, elle a tourné, elle avait pas 50 ans, elle joue le rôle d'une femme de 80 ans, elle a été extraordinaire.
Avec Gabin, Le Chat.
Avec Gabin, voilà.
Et la Veuve Coudert,
avec Delon. La vie devant soi, malgré tout, qui est pas un très bon film, mais elle est extraordinaire. Ça lui a valu d'ailleurs un César. Mais enfin, il y a plein de. Tout à coup, on peut retrouver. Il y a plein de films. Il y a aussi une adaptation de La Mouette de Tchekhov, faite par Sidney Lumet en anglais avec Vanessa Redgrave. Elles sont magnifiques toutes les deux, tournées en Suède pendant l'été 68. C'est magnifique.
Marco Brigon.
Moi, j'aurais dit la ronde de Max Ophüls. Ophüls étant quand même un des plus grands stylistes du cinéma et un maître qui a inspiré Spielberg et Scorsese pour sa mise en scène complètement opératique. Et je trouve qu'il a vraiment magnifié Simone Signoret dans ce film.
On la voit 5 minutes, c'est pour ça que je l'ai pas cité.
C'est
ça, voilà,
ouais. Voilà, justement, c'est une apparition qui est quasiment spectrale, mais qui imprime durablement la rétine.
Ça suffit maintenant!
Au revoir.